enregistrer et puis les internautes ne peuvent pas vous entendre si vous vous exprimez sans micro. Avant de commencer le conseil municipal, je vous propose d'accueillir les nouveaux conseillers, les nouveaux villabéens qui se sont proposés pour participer au conseil des sages de notre commune. Et je vais les appeler un par un, donc ils se présenteront et cela vous permettra de faire connaissance avec eux. Nous avons aussi parallèlement organisé des élections dans nos écoles et nous avons des jeunes conseillers municipaux enfants, puisque tous les ans nous organisons des élections pour la moitié d'entre eux, puisque désormais les conseillers municipaux commencent à partir de la classe de CM2 et jusqu'en 6e. Et donc cette année, nous en avons élu 6. Donc nous avons 8 conseillers municipaux enfants, jeunes. Et nous les avons réunis en visioconférence en début de semaine pour organiser avec eux leur activité. J'aurais souhaité qu'ils viennent ici, mais c'était compliqué parce qu'ils auraient dû venir avec leurs parents. Donc il y aurait eu trop de monde dans la salle. Donc je vous invite à accueillir Madame Georges Christiane. Vous pouvez l'applaudir hein, parce que pour être membre d'un conseil des sages, ça veut dire qu'on est volontaire, on va participer à de nombreuses réunions, commissions, et puis les sages, depuis 2014, ils nous ont aidés pour de nombreux événements, et on a eu malheureusement les inondations, la Covid-19, ils nous ont aidés pour la distribution des masques, pour l'organisation de nombreux événements. Donc bienvenue encore, et puis merci d'être volontaire pour participer à ce conseil. Donc je vais vous laisser vous présenter. Merci beaucoup.
Bonsoir, Christiane Georges. Je suis depuis 47 années à Villabé. Donc je connais bien l'évolution de Villabé. Je me suis investie dans énormément d'associations. Mes enfants aussi sont ravis, enfin maintenant c'est les petits-enfants, de voir la progression du domaine associatif. Actuellement, mon activité, c'est lire et faire lire dans les écoles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'est lire et faire lire. Oui ? Bon. Bon, alors, lire et faire lire, ça a été créé par Alexandre Jardin avec la Ligue de l'enseignement et les associations de familles sur le plan national. Ça donne la possibilité à des gens de plus de 50 ans de lire dans les crèches, dans les centres de loisirs, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires également. Alors, le choix des livres, c'est nous qui le faisons, avec des restrictions. Nous ne devons pas aborder la religion, la politique et d'autres choses. Et sur Villabé, nous sommes 5 à lire. Ça marche très bien. Les enfants sont contents, les parents aussi. Voilà.
Merci, merci pour ton investissement dans nos écoles. Donc j'appelle maintenant le révérend Françoise. Elle va nous rejoindre. Voilà, tu vas pouvoir te présenter aux conseillers municipaux.
Voilà, bonsoir. Moi, c'est Françoise le révérend, donc... Je connais pas mal de monde autour de la grande table. J'étais là à l'ancienne mandature. Donc je faisais déjà partie du Conseil des sages. Je suis née à Villabé. Donc ça fait des années que je vais à l'école à Villabé, que j'ai tout fait à Villabé. Voilà, je suis encore à Villabé. Je fais partie de Lire et faire lire également. Donc, on a fait plein de choses avec la bibliothèque, avec le centre de loisirs. Et voilà. Bon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre.
Voilà. Merci. Vidal Geneviève, on peut l'applaudir aussi. Elle était aussi déjà au Conseil des sages. Alors, il y a quelques sages qui n'ont pas souhaité poursuivre, hein, parce qu'avec la Covid-19, malheureusement, mais on n'a pas pu organiser depuis le mois de mars beaucoup de réunions. Donc c'était assez compliqué pour eux. Mais merci de vouloir continuer et puis rejoindre cette nouvelle mandature.
Bonsoir, je suis Geneviève Vidal. Je suis retraitée depuis 2012. Je suis depuis 1971 à Villabé, donc j'ai mis mes enfants à l'école. Je suis impliquée dans la vie associative sur deux associations. Et voilà. Déjà, la première mandature, j'étais au Conseil des sages et j'espère donner satisfaction cette fois-ci. Bonne soirée à vous.
Merci. Et Geneviève était aussi très présente lorsqu'on organisait les expositions sur la Grande Guerre aussi. Tu as bien souvent aidé Frédéric Faure et son association. J'appelle maintenant André Saldumbide. On peut l'applaudir. Merci André. Ouais. Bon, il habite Villabé, mais il part souvent en vacances dans le sud-ouest. Si tu veux te présenter.
Oui, bonsoir, je m'appelle André Saldumbide, c'est un nom basque, cherchez pas. Il y en a un autre à côté de moi, la basque. Oui, donc j'habite à Villabé depuis 1970, mais Villabé que je connais quand même depuis 1963, habitant à Essonne en arrivant de mon pays basque. J'ai toujours été actif à Villabé au niveau des associations. Je suis notamment, pour l'instant, président de l'association de Club Photo Villabé. J'ai toujours participé, même avant le Conseil des Sages, donc à la vie de Villabé, tant associative et ainsi de suite. Et je suis bien content de me retrouver pour la deuxième fois donc, au Conseil des Sages et continuer à faire plaisir à tout le monde. Voilà.
Merci. Mais je vais appeler Thierry Gaillochon parce que tu n'es pas venu, tu viens à mes côtés. Et puis Jean-Louis Lelièvre. Mais Thierry Gaillochon, il est conseiller délégué et c'est lui qui va... gérer le Conseil des Sages, le Conseil des Enfants, aidé aussi par Nadia Liaoui, Patrick Assaïm et puis tous les élus qui souhaiteront se mobiliser. Donc si tu veux dire un mot.
Écoutez, messieurs, dames, bonsoir à tous. Comme le vient de le dire monsieur le maire, nous allons remettre en œuvre, je dirais, ce qui a déjà existé, mais qui, par le Covid, a fait qu'on avait levé le pied pendant un an, malheureusement. Donc je remercie les 5 nouveaux membres du Conseil des Sages pour certains, de reprendre le flambeau et de continuer surtout. Et au nouveau, une bienvenue. Donc, il y a aussi Céline Onesta qui nous rejoindra dans cette action. Donc, on la remercie aussi. Voilà. Et donc, Patrick aussi. Voilà. Donc, je passe le micro surtout, à monsieur Le Lièvre.
Jean-Louis. Oui. Et bonsoir à tous. En niveau départemental. J'ai acté pour venir au Conseil des Sages pour essayer d'améliorer, enfin pas d'améliorer, mais d'apporter mes connaissances en ancien policier national. C'est pour ça, connaissant un peu la réglementation, je peux apporter mon savoir. Voilà, je vous remercie.
Merci, et puis on compte sur toi pour les prochaines réunions. Donc là, cette fois-ci, dans cette mandature, on va faire énormément de réunions intergénérationnelles avec les enfants, avec vous. Donc là, il est prévu d'organiser des travaux avec ces deux entités. Et puis on compte sur vous pour nous aider dans les différents dossiers, parce qu'il y a énormément de dossiers en cours sur la commune. Merci à vous. Et puis donc vous pouvez rester avec nous pendant cette séance, hein, mais vous êtes libre aussi de nous quitter quand vous le souhaitez. Nous allons commencer notre conseil municipal, donc je vais faire l'appel. Fabrice Rouzy, Isabelle Vire, Assaïm Patrick, Liaoui Nadia, Robert Nieto, Pascal Huvier, Laurent Silvera, Marie-Gaën Sidorco, Céline Onestas, Imou Akiepi, il est absent, il a donné un pouvoir à Pascal Huvier, Valérie Cellier, Denis Guyot, Nicole Wagemecker, Franck Pied, absent, Pascal Guyon, elle a donné un pouvoir à Valérie Cellier, Valentin Salès, Marguerite Dos Santos, elle va peut-être nous rejoindre parce qu'elle était encore au travail, Thierry Gaillochon, Martine Chauchard, Aziz Awashria, Arlette Pain, Jean-Claude Develet, Marie-Yvonne Martin, Anne Trembeau-Dufresne, Marie-Hélène Garcia,
présente.
Antonio Sébastien,
présent.
Christian Berthaud a donné un pouvoir à Antonio Sébastien. Najette Otmani, pouvoir à Madame Anne Trembeau-Dufresne. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons commencer cette séance. Alors je vais désigner Isabelle Wirth, secrétaire de séance, comme c'est elle qui va prendre la parole le plus souvent possible. Elle signera le PV avec moi à l'issue de cette réunion. Et puis, donc, je vous épargne encore une fois la lecture de l'ordre du jour. Tout le monde l'a eu, parce que sinon ça va être trop long à vous lire. Vous trouverez dans vos pochettes jaunes un courrier qui a été signé par Xavier Dugouin, président du CIARS, sur les commissions thématiques du CIARS. Donc là, c'est une information. Normalement, vous avez aussi une attestation de déplacement dérogatoire pour vous permettre de regagner vos domiciles, puisque le couvre-feu aura lieu dans quelques minutes, à 20h. Donc tout le monde a bien ses attestations. Et puis, on peut commencer. Donc, il n'y a pas de remarques particulières, non, madame? Oui, une question?
Simplement la même observation que la dernière fois, c'est-à-dire que les questions orales ne sont pas mentionnées sur la convocation. Alors, est-ce que c'est une nouvelle façon de fonctionner depuis quelques mois, ou est-ce qu'il faut qu'on s'habitue, ou est-ce que c'est simplement un oubli?
Les questions orales, c'est-à-dire à la fin? Dans l'ordre du jour, oui. Non, mais il y aura toujours des questions orales, de toute façon, des questions diverses.
Elles ne sont pas mentionnées sur l'ordre du jour.
D'accord, mais je vous propose de les rajouter à l'ordre du jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, nous rajouterons les questions orales à l'ordre du jour. Je commence par le point 1A. Donc, il s'agit des portées à connaissance des décisions du maire qui ont été prises depuis notre dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur le point 1A?
Oui.
Allez-y.
Alors, à propos de la délibération qui concerne le contrat pour la réalisation d'un film institutionnel, pouvez-vous nous préciser de quoi il s'agit, au vu du montant, 8 000 €, de la durée d'un an pour un film?
C'est tout simplement, nous avons pris la décision de faire réaliser un film sur toutes les activités de la commune. Donc, si ça dure un an, c'est parce qu'il va y avoir ils ont commencé à filmer le forum des associations. Eh bien, ils filment tous les événements, les marchés gourmands, les conseils municipaux. Et quand on dit un an, c'est énormément de déplacements, d'activités. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est que d'ici un an, on aura constitué tout ce qui a été réalisé pendant 365 jours. Voilà, est-ce que vous avez besoin d'autres informations? Non, ça vous...
Non, c'était juste pour avoir cette information. Voilà. Alors, toujours à côté, par rapport à la délibération du 3 novembre 2020, donc c'est à propos de la captation en direct des conseils municipaux par une société privée.
Oui.
Nous souhaiterions savoir si c'est la première fois que ce type de contrat est passé. Si oui, pourquoi? Quelle est la plus-value? Cela représente tout de même 2 000 € l'année. Et en espérant que le rendu en direct sera meilleur que la dernière fois lors de la séance du 6 novembre 2020, nous vous rappelons que la qualité du son, inégale, voire inaudible à certains moments, n'a pas permis de suivre les débats dans de bonnes conditions. En direct, bien entendu.
Tout dépend du matériel que vous utilisez lorsque vous êtes chez vous, parce que nous n'avons pas eu la même information. Et puis moi, vous pouvez ensuite écouter les séances du conseil municipal en différé. Alors au début, il y a peut-être eu des mises au point techniques, mais l'objectif... vous demandez l'utilité, c'est aujourd'hui par exemple, mais le public ne peut pas être présent, donc nous avons pris la décision d'enregistrer, de le diffuser sur la chaîne YouTube. Et donc la technique, elle s'est améliorée. Et 2 000 €, vous estimez que c'est excessif? Moi je trouve que c'est un contrat mais qui a été conclu d'une manière équitable pour la commune et pour l'entreprise, parce que c'est quand même... du personnel, du matériel, des heures de travail, parce que ça nécessite de la technique aussi pour faire fonctionner ce dispositif. Et un savoir-faire, c'est comme vous vous plaignez, quand vous avez critiqué le tarif des architectes aussi, mais ça nécessite des connaissances et un savoir-faire que nous ne détenons pas obligatoirement. Oui, monsieur Sébastien.
Oui. Oui, sur le point suivant, concernant la mission de contrôle technique pour la construction du troisième groupe scolaire, un peu d'éclaircissement. En quoi consiste la prestation et vous est-il possible de nous indiquer le nombre de devis que vous avez eu avant de faire le choix?
Le choix a été établi. Vous savez qu'on a délégué, la maîtrise d'ouvrage à Grand Paris Sud. Donc Grand Paris Sud a fait des demandes à différentes entreprises et nous a proposé cette société pour pouvoir établir le contrôle technique. Et compte tenu du montant, donc on n'est pas obligé de faire un appel d'offres non plus. Donc là, ça vous pose un problème particulier ou c'est...
Non, c'est-à-dire qu'on
et l'objectif, aimerait... c'est d'effectuer le contrôle technique, oui, de tout ce qui va être fait concernant les documents qui vont nous être remis pour ce dossier de...
Donc, en fait, c'est un contrôle technique sur les documents, sur les plans, les choses comme ça, alors.
Ben voilà, pour l'instant, oui, parce qu'on en est à l'étape où nous avons réuni, en début de semaine, le jury qui a choisi, parmi les 4 architectes qui ont été retenus sur les 150. Donc, et là, il y a des contrôles qui sont réalisés sur ce qui est fourni par les entreprises, soit les architectes.
Si je peux me permettre, monsieur le maire.
Oui.
Juste pour répondre à cette question qui est un peu technique, je me permets de prendre la parole. En fait, le contrôle technique, c'est une obligation réglementaire selon la loi MOL et la loi MOP aussi, la maîtrise d'ouvrage publique. Donc, en fait, ça consiste à vérifier le dossier en état initial et déterminer un rapport initial. Ce rapport-là, il sera vérifié en état final, c'est-à-dire à l'exécution des travaux, pour pouvoir garantir au maître d'ouvrage la garantie décennale et la dommage ouvrage.
Merci. Donc, vous aurez compris qu'Aziz Awashria est en charge, justement, de la construction, de l'urbanisme scolaire, et notamment de la BIM. Vous savez qu'on a voté aussi un budget pour pouvoir disposer d'informations BIM qui nous permettront, BIM Motion, donc qui nous permettront de disposer d'informations pour la gestion de la future école lors de son fonctionnement.
Merci. La délibération concernant les travaux de menuiserie d'un montant de 21 500 euros, ça correspond à quoi, s'il vous plaît?
Non, oui, ce n'est pas une délibération, c'est une décision.
D'accord, la décision alors.
Oui.
Alors,
Robert
Nieto,
pour vous apporter des précisions, la société ici qui a fait des travaux de menuiserie, donc c'était dans quel bâtiment, Robert, s'il peut nous préciser le. Oui.
J'ai pas très bien entendu la question parce que j'étais occupé à faire autre chose.
S'il vous plaît, si vous pouvez répéter. Travaux de menuiserie de la société ESIC.
La société
ESIC.
Pour des travaux de menuiserie?
Oui.
Oui, pour une somme de 21 500 euros. Donc nous souhaitions savoir de quels travaux il s'agissait et où.
Ça doit être des travaux qui ont été entrepris en mairie, il me semble. Des travaux d'aménagement de la mairie, du bureau de maire. Ça vous convient?
Oui. À partir du moment où vous nous éclairez, il n'y a pas de souci.
Merci.
La décision du 13 novembre, la convention de résidence photographique. Le 14 octobre a été organisé à Villabé un parcours photographique avec M. Anthony. D'où notre question sur cette convention. Est-ce en lien avec ce parcours? Pouvez-vous nous donner les détails de la convention et quel est le but? Merci.
Ben,
de votre
les détails, réponse. Vous pouvez les consulter en venant en mairie. Hein. Vous pouvez venir tous les jours consulter tous les documents qui concernent les conventions qui sont signées. Et s'il s'agit d'établir, comme on a un partenariat avec l'atelier de l'orage depuis des années pour la culture et le théâtre, là, nous avons mis en place avec Céline Onestas un partenariat avec M. Lionel Anthony. Et donc, de la même manière, il va y réaliser des reportages photographiques sur la commune. Il a déjà organisé avec la responsable de service culturel un atelier de photographie avec des Villabéens qui ont pu y participer. Donc là, il est prévu d'organiser plusieurs séances. Donc vous l'avez dans le guide culturel qui a été distribué à tous les Villabéens. Il s'agit d'un parcours photographique avec Lionel Anthony qui travaille aussi avec la commune de Corbeil-Essonne. Voilà, si vous n'avez plus de questions, nous allons poursuivre. Oui,
il y a encore quelques précisions, monsieur le maire.
Oui.
Concernant donc la société Exprime, avenant concernant le nombre de projets à analyser.
Oui.
Quel est le projet et de quoi s'agit-il?
C'était tous les projets d'architectes, parce que le nombre a augmenté, puisque nous avons eu plus de 140, 150 architectes. Et puis les quatre projets de. Nous avons retenu quatre architectes, et c'est pour ça qu'on a augmenté le marché qui avait été passé avec cette société. Donc, il s'agissait des missions d'avant-projet. Et Exprime, c'est la société que vous avez vue, c'est la personne qui s'occupe du programme, le programmiste. Non, ne me demandez pas pourquoi c'est 11 550 euros. Ça aurait pu être 25 652. Vous voyez, les tarifs ce sont des négociations et puis ce sont des tarifs qui sont conformes aux tarifs de la profession.
Non, mais on ne vous l'avait pas demandé. Donc, par contre, ce que nous aimerions savoir, c'est par rapport à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, Société Exprime, c'est pour quel projet?
Monsieur Sébastien est présent. Lorsqu'il a participé au jury, c'est pour
C'est le même?
Le projet d'école.
Toujours le même projet d'école. Oui. D'accord.
Très bien.
Dernière.
Bon. Une autre question.
Celle du 24 novembre 2020.
Oui.
La convention d'assistance est suivie pour la gestion de la TLPE. Pourquoi s'adresser à une société privée? Nous n'avons pas les compétences au sein du personnel communal pour faire cela.
Ça a toujours été comme ça. Donc, vous parlez de quelle société privée? Puisque là, il s'agit des contrats d'assurance.
Non, il y a marqué société REFPAC G.
Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs délibérations du 24 novembre.
Alors, 24 novembre 2020, DECURBA20257. Il est passé une convention d'assistance et de suivi pour la gestion de la TLPE.
Ce que je vous propose, c'est on va vous acheter un appareil photo, du matériel informatique. Et cette société, elle prend en photo, elle prend les dimensions de toutes les enseignes des publicitaires des entreprises, des commerces. Elle nous définit la surface pour pouvoir appliquer donc, la taxe. C'est la seule taxe maintenant que les communes perçoivent, des entreprises, ou une des seules. Et donc là, ça a toujours été une société privée. Nous n'avons pas de personnel en interne et puis on n'a pas la compétence non plus pour... Donc, elle nous permet de définir la base pour le calcul de l'imposition de cette taxe. Il faut connaître les surfaces, les dimensions des enseignes qui sont apposées sur les... Donc, depuis qu'on a mis en place ce système, les enseignes elles ont tendance à diminuer parce que plus elles sont grandes et plus la taxe est importante.
Merci.
Voilà, si vous n'avez plus de demandes de précision, je vous propose... d'adopter le procès-verbal du dernier conseil municipal. Oui.
Oui, donc puisqu'on est à ce point-là, c'est-à-dire au niveau de l'approbation du procès-verbal. Donc, après lecture du procès-verbal annexé à la Convention, nous nous sommes aperçus que celui-ci prenait en compte une grande partie de nos observations et demandes de modification.
restent les points 1D et 1E. Pour rappel, le point 1D, c'était la convention de réservation au titre de la garantie d'emprunt au bénéfice de la société Erilia. Les propos qui sont écrits ont été édulcorés et améliorés. Nonobstant le fait que vous n'avez pas indiqué que Bien Vivre à Villabé a fait mention d'un quota de 12 logements pour la commune, soit 7,75%, il n'a jamais été énoncé que cela ramènerait donc un contingent maîtrisable à 46 logements. Toutefois, vous vous êtes engagé à solliciter le conseil départemental, la préfecture et autres réservataires pour récupérer d'autres logements éventuels. Le point 1E, approbation du programme du troisième groupe scolaire. Des propos ont été ajoutés. En effet, aucune réponse n'a été apportée à la remarque faite par M. Berthaud de Bien Vivre à Villabé quant à la demande de transmission sous format papier des documents relatifs à la construction de ce projet. Vous n'avez fait aucun commentaire à ce sujet et pourtant il est indiqué. M. Dira explique que compte tenu de la taille des documents, ils sont envoyés en dématérialisation et consultables en mairie, mais qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas être transmis en version papier. Autant le premier point, le point 1D, peut être laissé comme vous l'avez rédigé, même si ce n'est pas fidèle à ce qui a été dit. Autant il n'est pas entendable que soient rajoutés des commentaires qui n'ont pas eu lieu, comme dans le retransmis du point 1E. Nous vous demandons donc de modifier celui-ci en enlevant votre explication. Enfin, la mention « annule et remplace » apposée sur le nouveau procès-verbal serait la bienvenue. Je vais continuer. Serait la bienvenue lors de l'apparition sur les panneaux d'affichage et sur le site de la commune. Nous souhaitons préciser que ce n'est pas par plaisir que nous demandons des rectifications, mais dans un souci de transparence quant à la teneur des débats. C'est d'autant plus important que ce procès-verbal est un document officiel qui restera dans les archives. Pour conclure, vous avez eu la bonne idée d'enregistrer les séances. Aussi, vous pouvez vous en servir pour rédiger un procès-verbal le plus objectif possible. Ou, autre solution, vous pouvez aussi envisager la transmission par écrit des propos dans leur intégralité, comme le fait le Conseil communautaire de Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart.
Très bien, merci. Donc, vous avez pu vous exprimer, mais je ne modifierai rien dans l'immédiat. Tout est enregistré. Hein, donc, nous allons procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est adopté à la majorité. Merci. On passe au point 1C. Donc, je vais laisser la parole à Mme Isabelle Wirth qui va vous parler du projet éducatif municipal. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je ne vais pas lire tous les documents que vous avez. Je vais vous faire un résumé le synthétique et explicatif concernant ce projet éducatif. Donc, l'objectif d'un projet éducatif est de mobiliser toutes les ressources, moyens humains, structures, financiers, prestations, donc toutes ces ressources de la commune, afin de garantir une continuité éducative chez les enfants et les adolescents. L'élaboration d'un projet éducatif est encadrée par une réglementation et par des décrets. Concrètement, cela se traduit par l'élaboration d'un document de base permettant ensuite une déclinaison plus fine au niveau des différentes structures municipales comme le RAM, le centre de loisirs, le service jeunesse, etc., afin que ces structures élaborent des projets pédagogiques et d'animation. Le projet éducatif de Villabé va se décliner en quatre grandes orientations stratégiques que vous avez à la page 3. Donc, il s'agit de favoriser l'éveil, le développement et l'épanouissement de l'enfant dès son plus jeune âge, d'éduquer à la citoyenneté afin de contribuer au mieux vivre ensemble, de proposer des activités culturelles, éducatives et sportives de façon ludique, et de développer et favoriser les échanges et la collaboration entre les différents acteurs. Au travers de ces quatre orientations stratégiques, nous voyons que ce projet éducatif territorial est un outil de collaboration et de transversalité d'action qui touche tous les domaines de la commune, à savoir la citoyenneté avec M. Gaillochon, la transition écologique avec Madame Cellier, les affaires culturelles avec Madame Onesta, les affaires sportives avec Monsieur Assaïm, les affaires sociales avec Madame Huvier, l'emploi et l'insertion avec Monsieur Achiepi, la communication, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse avec Madame Liaoui, et enfin le scolaire, périscolaire et santé. Ces quatre orientations stratégiques vont se décliner à leur tour en orientations opérationnelles avec des actions et des outils. En conclusion, je dirais que le projet éducatif a pour but de faire bénéficier la jeunesse villabéenne d'une offre éducative en créant une synergie entre tous les acteurs. Les actions mises en place seront évaluées de façon quantitative au niveau des structures et de l'action, en fonction du nombre des participants, des sorties, des présences, du coût d'encadrement, du coût de l'action. Évaluation qualitative qui sera réalisée par les responsables de chaque structure et parallèlement, des outils de mesure et de satisfaction des usagers pourront également être mobilisés. Voilà, si vous avez des questions.
Allez-y, madame.
Donc, nous avons lu attentivement ce projet qui nous a été présenté lors de la commission politique scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance, jeunesse et santé du 7 décembre 2020 et qui est donc débattu ce jour, le 17 décembre 2020. Celui-ci a sûrement demandé un travail important de recherche, de concertation, de consultation et une grande réflexion. Dommage que nous n'ayons pas été plus associés. Nous souhaiterions savoir quels partenaires ont été associés, quelle méthodologie a été retenue et appliquée, car la co-construction d'un projet fort comme celui-ci, puisqu'il s'adresse à tous les mineurs de 0 à 17 ans et à leurs parents, est indispensable pour qu'ils prennent vie et sens.
Alors, comme je l'ai dit lors de la commission, ont été associés tous les responsables de services des différentes structures, ainsi que les maires adjoints et les conseillers. Les responsables de structures ont fait remonter les actions, les demandes des Villabéens, et donc nous avons mis en commun, fait par les services municipaux administratifs, on a fait un panel de tout pour ressortir les quatre grandes orientations stratégiques qui concernent aussi bien la petite enfance, donc c'est-à-dire dès le RAM, on va dire, jusqu'au service jeunesse compris.
Est-ce que des associations ont été également sollicitées ?
Oui, les associations de parents d'élèves qui sont en relation avec les enfants ont donné leur avis au sein de chaque structure, c'est-à-dire que quand les parents venaient aussi bien au service jeunesse, au centre de loisirs ou des assistantes maternelles qui venaient au RAM, ils ont fait remonter donc aux responsables de service leurs désirs, leur volonté, améliorer certaines choses. Et donc, les chefs de service ont remonté leurs désirs ou des changements à faire.
Merci. Sur le contenu, quand nous avons lu attentivement aussi tout ce projet, il y a quelques éléments, et ce n'est pas exhaustif, qui portent à discussion selon nous. Par exemple, page 5, orientation stratégique numéro 2, éduquer à la citoyenneté afin de contribuer au mieux vivre ensemble, numéro 21, orientation opérationnelle 21. Il est indiqué se respecter et respecter les autres. On pourrait aussi rajouter être respecté. Parce que être respecté veut dire qu'à ce moment-là, on peut se respecter aussi et respecter les autres. Point 21C, transmettre et expliquer les règles collectives. On pourrait rajouter co-construire les règles collectives. Et je pense, quel que soit l'âge de l'enfant, on peut les co-construire avec lui.
Alors, pour vous dire, on a fait un résumé de tout ça. Mais ce que vous dites, la municipalité travaille dans ce sens. Et je vais vous dire, ça date même d'hier soir. En ce moment, je vous en ai parlé. Vous savez que l'on travaille sur un règlement périscolaire Et effectivement, par exemple, hier, des parents d'élèves ont été convoqués pour savoir ce qu'ils désiraient. Donc, on a écouté, ils nous demandent. Après, on va faire le personnel communal. Ensuite, on va faire les enseignants. On va faire, c'est un groupe commun. Et pour co-construire, ça va même plus loin. Parce qu'il a été décidé, et ça a déjà été fait, c'est en cours de construction, pour ces règlements et cette vie en collectivité. Ce sont les enfants mêmes qui font des tableaux avec leurs propres mots pour les afficher dans les écoles.
Donc, ça serait intéressant de marquer aussi co-construire sur votre projet.
Donc, et ça, c'est vraiment en cours de. Et pour un petit amusement, pour détendre l'atmosphère, je vais vous dire ce que j'ai lu hier. Et même nous, adultes, je crois qu'on n'y aurait pas pensé. Dans les règles, un enfant m'a dit il faut marquer, on ne fait pas pipi dans les lavabos. Voilà. Hein? Donc, ils sont vraiment au cœur du sujet. Voilà.
Vous êtes sûre?
Oui. Voilà.
Bon. Point 24A. Associer les enfants à la vie de la commune et servir d'intermédiaire avec le conseil municipal grâce au conseil municipal des enfants. Nous proposons aussi de pouvoir réfléchir sur déterminer des instances pour les collégiens et ceux qui sont sortis du collège. Donc pas que le conseil municipal des enfants. Point 24C. Découvrir la déclaration des droits de l'enfant. Et nous proposons d'ajouter la déclaration des droits de l'enfant et du citoyen.
Oui, j'entends bien tout ce que vous dites, mais tous ces points-là, enfin, tout ce que vous dites, on l'a évoqué en commission et on a tout dit mot par mot. Donc voilà, ça a été dit.
Non, tout ça n'a pas été dit en commission, mais bon.
Si, j'ai lu toutes les lignes, Madame Trambeau.
Oui, non, mais ce que nous, on rajoute, ça n'a pas été dit en commission.
Ah non, ce que vous rajoutez, non, mais tout ce que je vous dis, le point, ce que vous dites, faire découvrir, j'ai tout lu ça.
S'il vous plaît, là, ce soir, nous vous proposons d'adopter ou de ne pas adopter cette proposition, parce que ça a été vu en commission. Donc, j'ai bien entendu vos propositions, donc là, maintenant, je vais passer au vote.
Non.
Si, mais ce n'est pas vous qui dirigez la séance.
Ah oui, mais moi, je pense que...
Très certainement, mais moi, je demande maintenant, donc on va passer au vote. Donc,
non, c'est-à-dire qu'au niveau de ce qui est de la démocratie, vous pouvez laisser finir ce que nous avons à dire.
Oui, mais allez-y, nous avons d'autres points à aborder ce soir en conseil municipal, et nous ne sommes pas en commission municipale.
Mais nous ne sommes pas justement en commission municipale. Notre vision de ce projet, il ne semble pas être destiné aux jeunes ayant quitté le collège, c'est-à-dire ceux entre 14 et 17 ans. Nous ne percevons pas les orientations proposées pour ce public, leur place, et nous proposons que la prévention soit déclinée dans le mieux vivre ensemble. De plus, ce dispositif ne semble pas prendre en compte notamment tout ce qui est du domaine du soutien scolaire. Vous avez décidé volontairement de ne pas nous associer à ce projet et nous le regrettons, tout en prenant acte de votre positionnement. Cela est confirmé par la composition de la gouvernance du projet éducatif qui nous exclut de fait même d'un rôle en tant que spectateur. Pour conclure, encore une fois, votre définition du rôle des commissions rime avec information et non participation à la construction de projets. Cela nous a été rappelé à plusieurs reprises. Dommage pour ce que nous nommons démocratie soi-disant participative.
Très bien. Nous vous inviterons à la prochaine commission. Donc je vais procéder au vote. Il n'y a plus de questions ou de remarques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à la majorité. Merci. Moi, je tiens à souligner, malgré tout, malgré vos remarques, le travail considérable qui a été réalisé, parce que vous me semblez peut-être ignorer que nous sommes toujours en période de Covid-19, donc les réunions sont difficiles à organiser. Donc je salue Isabelle Wirth et puis tous ses collaborateurs qui ont pu élaborer ce projet qui a été réalisé avec l'ensemble des personnels, des parents d'élèves. Et puis ça donne une vision qui est la nôtre, celle de ce projet éducatif municipal que nous allons mettre en place au niveau du centre de loisirs, du service jeunesse et dans les différents services et des structures qui s'occupent des enfants, puisque nous avons sur la commune aussi un village d'enfants, donc c'est important de le souligner. Donc merci pour tout le travail que vous avez pu réaliser. Je passe au point suivant. Je laisse toujours la parole à Mme Isabelle Wirth pour le point 1D, donc qui va nous parler de l'approbation d'une convention territoriale globale avec la CAF de l'Essonne pour la période 2020-2023.
Donc là, la signature d'une convention territoriale permet aux collectivités de percevoir certains financements et subventions de la Caisse nationale des allocations familiales. Je rappelle ici que sans subvention, les structures de toute commune ne pourraient pas fonctionner, car la part demandée pour Villabé au Villabéen est minime par rapport au coût réel. Donc c'est une convention. Cette convention remplace ce qu'on appelait le contrat enfance-jeunesse avant. Donc un diagnostic social préalable, la convention globale est une démarche essentielle pour préparer ce nouveau cadre. Ce diagnostic effectué sur Villabé a porté sur 6 champs, la population, la petite enfance, enfance, jeunesse, parentabilité et accès aux droits. Donc tout le récapitulatif du diagnostic se trouve dans le dossier annexe que vous avez, qui s'appelle Convention territoriale. Suite à un diagnostic, des axes stratégiques sont dégagés afin de constituer une feuille de route ponctuée par d'objectifs et d'actions qui vont être répartis sur plusieurs années. Et pour Villabé, c'est une convention pluriannuelle 2020-2023. De cette convention, je vais vous résumer en quelques lignes le bilan général. Donc, il est dit que la commune de Villabé est une ville dynamique qui va connaître une croissance démographique avec l'arrivée et l'installation de nouveaux habitants et de nouvelles familles sur son territoire. Des changements urbains vont s'opérer avec plusieurs opérations qui ont été programmées ou sont en cours de réalisation. Au total, plus de 600 logements supplémentaires seront livrés d'ici 2025. Compte tenu de la projection du nombre de nouveaux logements, la population de Villabé va considérablement augmenter. Ces nouveaux arrivants vont engendrer de nouveaux besoins au niveau des infrastructures. Enfin, ces nouveaux habitants auront en effet des besoins en matière d'offres. Petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité. Alors, comme je l'ai expliqué à la commission, les chiffres qui ont été donnés dans ce document ont été des chiffres qui venaient de l'INSEE, qui viennent de la CAF elle-même, etc. C'est vraiment un partenariat avec la CAF. Donc, réalisé dans le cadre d'une démarche partenariale, la CTG va se concrétiser par la signature d'une convention sur une période pluriannuelle avec la CAF et la commune de Villabé. Voilà. Avez-vous des questions ?
Oui, Madame Garcia.
Tout d'abord, félicitations pour ce travail, mais comme précédemment, nous déplorons qu'aucune association à ce travail ne nous fût proposée. Dommage que les diagnostics portent sur 6 champs et seulement 4 axes d'intervention, notamment sur l'accès aux droits. Il n'y a aucune axe d'intervention qui est un levier de justice sociale au quotidien. Nous nous limiterons simplement à une remarque sur la halte garderie. Vous annoncez des moyens constants pour cette structure, avec une amplitude constante, mais avec une hausse importante de population, comme vous l'avez dit, entre 600 et 850 logements supplémentaires. N'oublions pas que la halte garderie est fermée le mercredi et toutes les vacances scolaires, ce qui ne favorise pas la sociabilisation des tout-petits. Cela peut être expliqué, et cela peut être, peut-être, expliquer le taux d'occupation de 51%. Un brin d'humour. Page 9, il y a Moulin-Galant, 156 logements sociaux, dont 665 appartements intergénérationnels. Ça fait fort. Et dernier point, nous avons bien noté que dans l'axe d'intervention « Construire la politique de parentalité de la commune », dans les points de vigilance, il y a bien marqué « Associer les élus à la réflexion ». Donc nous sommes disposés à vous aider dans la réflexion. Merci.
Juste pour rajouter, au niveau des points que vous mentionnez, c'est vrai que Villabé est concernée de près avec la petite enfance, enfance-jeunesse. Comme je l'ai expliqué lors de la commission, pour la parentalité et l'accès aux droits, c'est plutôt la CAF, et c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire ça concerne toutes les démarches que la CAF réalise. Donc, ils nous ont donné les démarches réalisées par les Villabéens en ligne, ainsi que la dématérialisation les thématiques que les familles demandent pour un accompagnement après un décès, après un divorce, une naissance, etc. Concernant la parentalité, c'est une politique avec des textes de référence et Villabé se caractérise par un public allocataire et ce public allocataire est défini par la CAF avec monoparentalité, etc., etc. Donc ça, ces deux points-là, c'est plutôt la CAF qui nous transmet les chiffres.
Alors, voilà. Je suis d'accord avec vous. Je travaille dans le cadre de mon métier sur des conventions CAF sur un autre département. L'accès au droit, j'ai bien lu toute la partie diagnostic. C'est sur les choses qui sont faites, justement, de développer l'accès au droit et notamment l'adhésion à France Service pourrait peut-être permettre de réduire la fracture numérique et surtout inciter des gens à utiliser, parce que le diagnostic ne porte que sur les gens qui utilisent et ne sont pas identifiés les gens qui n'utilisent pas. Et c'est bien dommage, c'est pour ça qu'on insistait sur l'accès au droit.
Oui, je vous en remercie. Et ça a été soulevé et Madame Huvier en a pris conscience. Et au niveau du CCAS, elle accueille, écoute et oriente toute personne en difficulté ou qui ont besoin d'aide, que ce soit sur le plan santé, aide à domicile ou finances.
Merci. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à la majorité, merci. Nous passons au point 1E. Et là, je vais laisser la parole à M. Denis Guyot, donc concernant l'adhésion à l'Association des Amis de la Gendarmerie. Merci.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. L'objet de cette association et ses comités est de soutenir les gendarmes et de faire connaître leur action et les nombreux services de la gendarmerie. Le bulletin d'adhésion pour les communes est d'un montant de 100 euros. Vous pouvez également vous inscrire à titre individuel pour un montant de 25 euros. Durant ces dernières années, des sorties ont été proposées aux membres de l'association. On compte à peu près une centaine d'adhérents. Ce qu'il faut savoir, les sorties ont pour but de visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, le GIGN, les grandes écuries sur la ville de Vincennes. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au comité des amis de la gendarmerie de l'Essonne pour renforcer le soutien dû aux forces de l'ordre chargées de la sécurité de nos communes. Merci.
Vous avez des questions, des remarques ? Oui, madame.
Une remarque. Nous sommes surpris que ce soit porté par une collectivité et non par des individus. En outre, fille d'officier de gendarmerie, petite fille de gendarme, tante de gendarme, sœur d'officier de gendarmerie. Je ne comprends pas en quoi l'adhésion à cette association va contribuer au soutien des forces armées de la nation. Il est bien entendu que chacun est libre d'adhérer à cette association honorable, mais ce n'est pas à une collectivité de le faire. Sinon, comment allez-vous justifier le refus d'adhérer à d'autres causes aussi honorables dont nous vous épargnerons la liste ?
Mais alors, en tant que fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur d'origine pied-noir, et puis sous-officier dans l'armée de l'air, officier de l'armée de l'air jusqu'au grade de capitaine, nous vous proposons d'adhérer à cette association parce que nous avons des liens très étroits avec les gendarmes qui travaillent sur la commune de Villabé. Donc je tiens à saluer ce soir le travail exemplaire qui est réalisé par les gendarmes de Mancy, donc qui sont 24 heures sur 24 sur la commune de Villabé. Donc il est proposé à la commune de Villabé de s'associer à cette association. Les amis de la gendarmerie, vous pouvez le faire aussi à titre individuel. Moi, je l'ai fait personnellement. J'ai envoyé mon chèque de 25 euros pour adhérer à l'association. Donc tout le monde est libre d'adhérer à cette association. Mais là, ce soir, c'est la commune de Villabé qui adhère à l'association des amis de la gendarmerie. Et je salue vos origines, si vous avez un grand-père, un père, mais ça, c'est votre vie personnelle. Mais voilà, donc ce soir, nous vous proposons d'adhérer à cette association. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je procède au vote. Qui vote contre ? Donc, il s'abstient. C'est adopté à la majorité. Merci. Je passe au point suivant, qui est le point 2A. Donc, il s'agit d'approuver la convention de projet urbain partenarial avec l'opérateur Les Nouveaux Constructeurs, et je laisse la parole à Laurent Silvera. est à ma gauche. Merci.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, le projet urbain partenarial, dit PUP, a été créé par la loi du 25 mars 2009 et codifié au code de l'urbanisme. C'est un outil financier qui permet, en dehors d'une ZAC, une zone d'aménagement concerté, l'apport de participation à des équipements publics rendus nécessaires par des opérations de construction et d'aménagement. La commune de Villabé souhaite conclure avec les nouveaux constructeurs une convention de PUP pour une opération de 65 logements sous forme de logements locatifs, situés aux 14 et 18 rue Jean Jaurès. La commune doit créer un troisième groupe scolaire pour répondre aux besoins générés, entre autres par cette opération. Le coût prévisionnel global de cette opération est de 9 580 000 euros hors taxes. La quote-part mise à la charge des nouveaux constructeurs est arrêtée à la somme de 277 778 euros hors taxes. Les modalités de calcul sont détaillées dans le projet de convention annexé. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver la convention de projet urbain partenarial pour le projet des nouveaux constructeurs au 14-18 rue Jean Jaurès à Villabé et d'autoriser le maire à signer la dite convention.
Oui, Madame Garcia.
Si nous sommes amenés à voter ce soir une convention de PUP sur ce projet immobilier, cela signifie que l'affaire est dans le sac. Vous confirmez donc que vous n'exercerez pas de droit de préemption sur ce bien, quel que soit le prix d'achat, qui je pense aujourd'hui doit être connu de vous, donc ce serait bien d'informer la population. Car au-delà du prix d'achat, il existe dispositifs pour aménager en logements sociaux, en équipements publics, sans que cela pénalise les finances de la commune. N'oublions pas l'héritage de Madame Rigaud et ses volontés testamentaires d'utilisation. En outre, nous vous ferons grâce de vous reposer nos interrogations sur les paramètres de calcul. Et encore une fois, vous prenez le risque d'invalider le projet car un seul équipement concernait l'école. Merci pour votre écoute.
Merci, nous vous avons écouté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non. Donc je vais procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à la majorité. Merci Laurent pour ces explications qui vont permettre à la commune de financer en partie notre future école. Je passe au point suivant, qui est le point 2B. Donc, il s'agit de l'approbation de l'avenant numéro 1 d'une convention qui avait été établie avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un opérateur foncier public qui travaille, qui aide les communes lorsque les projets sont importants, donc pour soutenir aussi le logement locatif et le développement économique. Donc, nous avions convenu avec cet établissement d'une convention en décembre 2015. Et cette convention se termine le 31 décembre 2020. Donc il vous est proposé de poursuivre par un avenant cette convention tripartite qui a été signée donc, entre la commune, l'agglomération d'Évry à l'époque et l'établissement public foncier pour une mission concernant le secteur des Coudras et une mission de veille observatoire sur le secteur de la papeterie de l'éco-quartier où se trouve INAPA. Donc tout le monde a lu le projet d'avenant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, Monsieur Sébastien?
S'il vous plaît, Monsieur le maire. Oui. À quoi cela sert-il de prolonger donc d'un an cette convention? Y a-t-il un projet donc qui serait sous-jacent? En prolongation du vote de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2015, il y a donc 5 ans, où 7 voix avaient voté contre, nous voterons donc contre aujourd'hui.
Très bien, donc nous voterons, je passerai au vote tout à l'heure. Mais pourquoi nous allons le prolonger d'un an? Tout simplement parce qu'il va falloir que nous ayons des discussions avec l'établissement public foncier. Ces discussions auront lieu dans le courant de l'année 2021 sur les secteurs qui ont été mentionnés, sur les Coudras et la papeterie de l'éco-quartier. Donc il n'y a rien. Vous faites allusion, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir de sous-jacent. Mais donc là, il vous est proposé de poursuivre cette convention avec cet établissement pour pouvoir protéger la commune pour des projets qui pourraient. Parce que sur une commune, vous l'avez constaté, on vient de voter un PUP pour avec le promoteur Pichet, mais la commune, c'est pas elle qui génère certains projets. Donc, et l'établissement public foncier est là justement pour aider les communes si jamais il y a des projets fonciers importants qui seraient susceptibles d'apparaître. Et donc là, il est proposé de prolonger d'un an, donc il n'y a pas d'autres explications à donner. Donc qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à la majorité, merci. Je passe au point 2C et je vais laisser la parole à Nadia Liaoui, merci, concernant l'approbation d'une nouvelle convention, quoi, d'une convention concernant l'habillage du totem de Carrefour.
Merci, monsieur le maire. Donc, pour rappel, le centre commercial de Villa-Bé à 6 a été inauguré en 1992 et un totem publicitaire avait été implanté sur lequel il y avait des enseignes lumineuses Carrefour, Toys R Us et Darty. Cet ex-totem, devenu support d'antenne de relais téléphonique, remplit une mission d'intérêt général en permettant la couverture téléphonique mobile de l'autoroute A6 à proximité de la dernière station-service avant Paris et à proximité du centre hospitalier sud-francilien. Un habillage institutionnel de ce pylône serait de nature à conforter l'identité et le sentiment d'appartenance de nos habitants. Élément fort de la dynamique et de la réussite de notre communauté d'agglomération, il est demandé à l'Assemblée d'approuver le projet de la convention tripartite, d'autoriser le monsieur le maire à signer cette convention.
Oui, Sébastien, allez-y.
Merci. Oui, tout d'abord, pour parler un peu coût, combien cela va-t-il coûter aux finances villabéennes et intercommunales, s'il y a une réponse ? Effectivement, comme mentionné dans la note explicative, ce totem est une véritable verrue urbaine. Et en quoi la nouvelle parure va-t-elle mieux l'intégrer dans le paysage ? Et nous sommes bien entendu loin de tenir les engagements environnementaux.
Le coût pour la commune, c'est 0 euro, puisque c'est pris, normalement, vous devez l'avoir dans la convention, il y a le montant, mais c'est 0 euro pour la commune de Villa-Bé, puisque c'est pris en charge par Carrefour Property. Ensuite, ce qui est envisagé dans cette convention, c'est que dans 5, 6 ans, 7 ans, c'est Grand Paris Sud et la commune de Villa-Bé qui entretiendraient, c'est mentionné dans la convention. Effectivement, c'est effectivement, vous l'avez souligné vous aussi, une verrue. J'avais signé un permis de construire de démolition en 2015, mais ce totem supporte des antennes qui servent au secours, des antennes orange qui sont là pour servir au secours aux pompiers, à la gendarmerie. Donc les antennes, on ne peut pas les démonter. Donc le totem va rester, il ne sera pas démonté. Et on n'a pas la même vision que vous. Donc l'habillage qui est proposé, c'est aussi pour marquer l'entrée du territoire de Grand Paris Sud, hein, comme vous l'avez à Évry-Courcouronnes, sur les bâtiments de Grand Paris Sud. Mais là, au niveau de Villa-Bé, donc on aura Grand Paris Sud et Villa-Bé, donc pour marquer pour les millions d'automobilistes qui passent sur l'autoroute A6, pourront voir qu'ils se trouvent sur la commune de Villa-Bé et sur le territoire de Grand Paris Sud, plutôt que d'avoir un totem tout blanc et qui ne représente rien. Et vous avez le montant de l'adhésivage, il est de 81 432 euros, mais qui ne seront pas pris en charge par la commune de Villa-Bé. Oui, madame Trombeau-Dufresne.
Si on vous a demandé au niveau financier, c'est parce qu'il y a marqué « La ville prendra en charge conjointement les frais d'entretien éventuels des adhésivages, ainsi que les adhésivages ultérieurs en premier, conjointement avec le PCI ». C'est pour ça qu'on vous a demandé effectivement oui, le montant que ça pouvait faire.
C'est ce que je vous ai dit, c'est l'entretien. Donc pour qu'il y ait un entretien, il faut d'abord qu'il y ait un adhésivage et ensuite il y aura un entretien. Donc l'entretien aura lieu mais quand l'adhésivage... donc là, c'est à peu près dans 5-6 ans, d'après ce type de structures qui ont été installées sur le territoire.
Oui, donc on n'a pas financièrement un montant, même dans 5-6 ans, pour savoir combien ça va coûter. On n'a pas de perspective à ce niveau-là. On ne sait pas.
Non, pas pour l'instant.
D'accord.
Donc s'il n'y a plus de questions, je procède au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à la majorité. Merci. Je passe au point 3A et je redonne la parole à Mme Isabelle Wirth concernant, bon, ça, on le fait tous les ans, la répartition des frais de restauration pour les élèves inscrits en ULIS. Alors, on va enchaîner par la commune de Corbeil et le point 3B par la commune de Mency. Merci.
Donc, je vais expliquer le 3A et le 3B en même temps, car ils sont identiques. Les deux points concernent la répartition des frais de restauration, ce qui change, C'est le 3A concerne la commune de Corbeil et le 3B, Sémency. Donc, il s'agit de frais de restauration concernant les élèves inscrits en ULIS. ULIS, ce sont des unités localisées pour inclusion scolaire. Anciennement, c'était les CLIS. Donc, ce sont des dispositifs pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. À Villabé, nous n'avons pas d'ULIS, donc les enfants sont répartis sur les ULIS aux alentours. Donc nous avons un enfant de Villabé qui va à l'ULIS de l'école de Mency et trois enfants de Villabé qui vont à l'ULIS de Corbeil, bientôt deux parce que le troisième déménage. Pour les communes qui accueillent ces enfants, c'est-à-dire les communes de Corbeil et de Mency, ces enfants viennent de l'extérieur, c'est donc le tarif extérieur cantine qui leur est appliqué. Ces communes d'accueil, c'est-à-dire Mency et Corbeil, transmettent les factures de ces enfants à la commune de Villabé et la commune de Villabé refacture aux familles en tenant compte de leur quotient, comme s'ils étaient des Villabéas lambda. Donc, c'est le même soutien financier pour ces enfants scolarisés en ULIS que pour tout Villabéen. Voilà. Le tarif extérieur pour Corbeil, c'est-à-dire pour le point 3A, est de 6,63 et le tarif extérieur pour le 3B concernant Mency est de 9,50. Voilà. Si vous avez des questions.
Oui, pas des questions, une appréciation. Madame, nous sommes sur le fond, nous sommes d'accord, tout à fait d'accord, mais force est de constater que le conseil municipal n'est qu'une chambre d'enregistrement, puisque la convention avec la mairie de Corbeil et Sodexo a été signée il y a déjà quelques jours, en date du 15-10-2020, et que les informations sur Villabé ne sont pas remplies. Voilà, c'est une remarque.
Monsieur Sébastien, je l'ai vu aussi, mais je pense que il fallait bien que la convention soit signée parce que la mairie de Corbeil nous a demandé un retour. Et je pense qu'entre-temps, il n'y a pas eu de conseil municipal. Enfin, je m'adresse à monsieur le maire.
Si, le 6 novembre.
Voilà, donc voilà, moi je ne peux pas vous en dire plus. Bon. Voilà, elle est revenue de Corbeil. Après, c'est peut-être signé tant que les signatures se réalisent avec le Covid. Voilà.
Et sur la convention de Mency, c'est demandé de mettre la date de la délibération.
Oui, parce que Mency n'avait peut-être pas
de notre
fait la délibération et Corbeil a peut-être demandé de la faire plus tôt. Je ne pourrais pas vous répondre.
Donc il n'y a pas. D'autres remarques ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc nous passons au point 3C concernant, on poursuit avec Isabelle Wirth, la tarification sociale.
Alors je vous explique que pour...
On n'a pas voté, on n'a pas fait le vote de...
Ah, excusez-moi. Ah oui, 3A et 3B.
Donc on va procéder au vote du 3A et du 3B. Donc, je vous propose de les voter en même temps. Donc qui vote contre ? Qui s'abstient. Donc c'était les deux sont adoptés à l'unanimité. Merci.
Alors concernant le point 3C, alors une explication pour une inscription à l'école pour tout enfant, il faut que les parents présentent un justificatif de domicile. Donc pour les familles en grande difficulté sociale, le document dit hébergement SAMU social suffit. Or lorsqu'un de ses enfants déjeune à la cantine, ce document hébergement SAMU social ne suffit pas. En effet, pour calculer un quotient, il faut obligatoirement un justificatif de revenus, impôts, papiers associatifs ou autres, etc. Et certaines familles n'en présentent pas parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont rien, et donc il est obligé de leur appliquer le tarif maximum. Donc, il est proposé au conseil municipal que les familles hébergées au SAMU social avec attestation, mais qui ne possèdent pas de justificatif de revenus, soient placées directement sur la tranche de quotient la plus basse.
Oui, Madame Garcia.
Nous sommes tout à fait d'accord sur le principe de cette délibération.
Mais une remarque, à quand une réflexion sur le quotient familial et la justice sociale? Interrogeons-nous sur le prix du repas et les restes à vivre de certaines familles en corrélation avec le projet éducatif débattu précédemment.
Oui, merci pour votre remarque. C'est sûr que c'est une de nos préoccupations, hein, le soutien aux familles. Donc, Pascal Huvier va organiser lundi, c'est une information que nous vous donnons, hein, une distribution de colis alimentaires justement pour les familles les plus démunies. Donc, le Centre communal d'action sociale a contacté les familles qui ont les quotients les plus bas. Donc, ça va être organisé en collaboration avec, si tu veux en parler, avec Linky, une association donc, qui dépend de la région.
Oui, merci Monsieur le Maire. C'est une association, en fait, c'est par la région, hein, c'est la région qui nous propose cette distribution de colis alimentaires, qui est organisée par une association qui s'appelle Linky, qui récupère en fait des invendus de magasins et de boutiques alimentaires. Donc en fait, cette distribution aura lieu lundi. On a contacté plus d'une centaine de familles dont les quotients sont le plus bas au niveau du quotient familial scolaire. Et donc, on a aujourd'hui 104 inscrits.
Merci. Et ouais. Quant au calcul du quotient, donc là, ben, c'est une réflexion qu'on pourra avoir ensemble, parce qu'il faut avoir à l'esprit que ben, le coût d'un repas est important, et pour la commune, hein, c'est plus de 8 à 9 euros, si on ajoute toutes les charges, et même 10 euros. Donc après, si plus les tarifs sont bas, et ben, après, plus la commune doit être en capacité de financer les... Oui.
On est tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Maire. Ce qu'on faisait, c'était le lien de la justice sociale. Il y a un projet éducatif territorial. Je pense qu'une des premières orientations, c'est de fournir un repas par jour aux enfants de familles fragilisées.
Alors,
oui, Isabelle, Madame Isabelle.
Concernant deux points, donc pour finir l'hébergement SAMU social, nous avons 6 enfants en école maternelle Jean Jaurès, 6 enfants à l'école maternelle élémentaire Jean Jaurès, 1 enfant à l'école maternelle Ariane et 2 enfants à l'école élémentaire Ariane. Concernant l'offre d'un repas, tout enfant mange le midi. Même si les parents ne peuvent pas payer, on offre le repas, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas facturer, ça part au CCAS et donc il y a une suite au niveau social. On n'a jamais refusé un enfant, justement, c'est la politique, justement, un repas chaud au moins une fois par jour.
Merci. Donc je vais procéder au vote. Qui vote contre ? Il s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Eh bien, nous avons terminé tous les points du conseil municipal. Je vous propose de passer aux questions orales. Donc si vous voulez poser la première question.
Oui, s'il vous plaît.
Oui, monsieur Sébastien.
Donc concerne le site INAPA. Le directeur d'INAPA a été reçu à la mairie dernièrement. Selon vos propos relayés sur les réseaux sociaux, il vous a annoncé la délocalisation de l'entreprise. Cela va entraîner un manque à gagner pour nos finances, sans parler du devenir des salariés, bien entendu. Pouvez-vous nous informer plus précisément sur le contenu de cet entretien, les projets en cours, ainsi que le calendrier envisagé ? Merci.
Merci. Donc je vais laisser Laurent Silvera, qui est adjoint maire en charge de l'urbanisme social, mais aussi des commerces et des entreprises, vous répondre. Merci, Laurent.
Merci, Monsieur le Maire. Depuis 2014, nous avons rencontré Monsieur Chabi, directeur d'INAPA, à plusieurs reprises. Mais la situation reste inchangée. INAPA cherche une implantation mieux adaptée à son activité industrielle, ce qui conduira à s'interroger sur l'avenir du site actuel, pour lequel une étude avait déjà été conduite avec notre ancienne agglomération, Ivry-Centre-Essonne, en 2015. S'agissant du manque à gagner pour nos finances, votre question laisse entrevoir une nouvelle fois votre méconnaissance du fonctionnement de notre intercommunalité. Mais je vais vous éclairer. Le développement économique relève de la compétence de Grand Paris Sud. Et à ce titre, les taxes collectées sur les entreprises comme la CFE, cotisation foncière des entreprises, ou la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont perçus par l'agglomération avant reversement d'une attribution de compensation à notre commune. INAPA envisage le transfert de ses activités vers l'une des communes de GPS, proche de Villabé, permettant ainsi à notre agglomération de conserver les taxes, mais aussi de fidéliser ses salariés, domiciliés pour certains sur notre commune.
Vous pouvez passer à la question suivante, merci.
Le budget participatif. Pour mémoire, voici ce que nous avions écrit en avril 2020. Nous sommes convaincus par cette idée qui a été évoquée lors de nos premiers échanges publics début 2019 et nous l'avons écrit dans notre programme. C'est un engagement auquel on ne peut qu'adhérer à condition d'y retrouver les valeurs et les objectifs attendus. Car un budget participatif, c'est quoi ? C'est de l'argent alloué par la collectivité pour réaliser des projets proposés puis votés par les citoyens non élus. Cela en fait un outil de démocratie participative. La période de crise sanitaire que nous traversons n'a pas facilité la prise en compte de ce beau projet par l'ensemble des habitants. La preuve en fut lors de la réunion qui se déroula en juin, où seuls 3 Villabéens non élus étaient présents. Un bilan de ce dispositif sera intéressant, d'autant que sur les seules 25 propositions, 17 sont portées par des habitants, 4 par des conseillers municipaux de la majorité, 4 par des associations. Nonobstant ces éléments, deux questions. Pourquoi l'intégralité des projets présentés sur le site ne se retrouve-t-il pas sur le bulletin de vote ? Pourquoi le déroulé et les critères de votation ne sont-ils pas clairement explicités ? Date ultime de rendu du bulletin, date proclamation des résultats, etc.
Donc, en réponse à votre question, nous sommes vraiment très satisfaits à ce jour du déroulement de ce premier budget participatif. Il s'agit d'une proposition historique et novatrice pour notre commune qui est issue de nos réunions de quartier hebdomadaires depuis 2014. Nous en discutions avec les Villabéens, nous leur avions proposé lors de notre campagne et nous l'avons mis en œuvre malgré la Covid-19. Je tiens ici à saluer le travail réalisé par Fabrice Rouzic, notre premier maire adjoint en charge des finances, qui a su organiser cette première consultation participative sur notre commune en ayant tout de même au préalable proposé le vote d'un budget de 80 000 euros. 80 000 euros. Je remercie notre service communication qui a mis en ligne cet outil de vote permettant l'expression de nos concitoyens. À ce jour, près de 300 Villabéens de tout âge ont transmis leur choix parmi 15 propositions. J'invite toutes celles et ceux qui n'ont pas encore répondu à se prononcer jusqu'au 31 janvier 2021. L'année 2021 sera donc l'année de la mise en œuvre des propositions qui auront obtenu le meilleur suffrage des Villabéens. Merci. Si vous voulez poser la question numéro 3.
Une enveloppe de 25 000 euros a été inscrite au budget 2020. Elle était destinée, le cas échéant, à aider des associations dont la trésorerie aurait souffert pendant cette année difficile. Lors de la commission finances de début novembre, nous avons été informés qu'aucune association n'en avait fait la demande à la date de la commission. Qu'en est-il à ce jour et cette somme va-t-elle être réutilisée auprès du monde associatif local ?
Donc, je vais laisser Fabrice Rouzic vous répondre pour cette troisième question.
Je vous remercie de souligner tous les efforts consentis par la majorité municipale au monde associatif de notre commune. Cette année encore, ce soutien très important, qui représente 118 461 euros, a donc été abondé en raison de la crise sanitaire afin d'aider les associations qui rencontreraient des difficultés. J'en profite pour saluer et encourager tous les présidents d'associations et tous les bénévoles qui permettent de maintenir sur notre commune cet esprit de solidarité et d'échange qui contribue au dynamisme de notre belle commune. Les mécanismes de solidarité gouvernementale mis en place ont permis aux associations de traverser cette période compliquée. À ce jour, aucune association villabéenne n'a sollicité notre commune pour une aide supplémentaire, ce qui prouve que nos associations sont bien gérées. Enfin, cette somme suivra les règles inhérentes au principe de l'annualité budgétaire.
Voilà, nous en avons terminé avec ce dernier conseil municipal de l'année 2020 et nous allons vous donner quelques informations. Elles vont apparaître derrière moi, donc je vais me retourner. Là, vous avez, donc, c'est un courrier de la région Île-de-France qui nous attribue, mais vous aviez eu l'information, une aide pour l'installation donc, des caméras de vidéoprotection, donc pour un montant de 262 066 euros. Donc, c'est une information importante. Cela va nous permettre de poursuivre l'installation de la caméra de vidéoprotection. Avec Céline Onestas et le service culturel, nous filmons donc toutes les activités culturelles pour permettre aux Villabéens de suivre, puisque malheureusement nous ne pouvons pas organiser de séances en présentiel. Donc nous avons enregistré le concert de Dave Henry sur Beethoven. Donc là vous pouvez le trouver, il est en ligne hein, sur la chaîne YouTube de la mairie. Donc je vous invite à communiquer. Nous avons aussi mis en ligne un concert avec Jérémy Natag et ses handpans. Donc là, vous voyez l'instrument, c'est un instrument particulier. Et ça a été enregistré dans l'église, notre église Saint-Marcel. Donc je vous invite aussi à aller sur le site et à faire connaître cet instrument. Demain soir, donc je crois qu'il y a Marie Sidorco avec toute une équipe hein, qui va passer, parce qu'on a plus de... Combien de personnes ? Plus de 23 personnes se sont inscrites pour participer au concours des illuminations de Noël. Donc je tiens à les remercier, à les saluer, parce qu'ils permettent d'éclairer notre belle commune dans cette période de Covid-19 et puis surtout de cette période de Noël. Alors derrière, on vous a mis quelques images cet après-midi. J'ai pu me rendre avec le maire de Corbeil-Essonne, le maire de Lys, dans le cirque de l'Essonne, où des travaux importants ont été entrepris pour le traitement des déchets, puisque toute la zone qui se trouve sur Essonne et Lys, ce sont des zones qui ont été polluées et on a évalué à peu près à 900 tonnes. Hein, c'est 900 tonnes de déchets qui vont devoir être évacuées. Pour l'instant, nous en sommes à 700 tonnes. Ça représente un budget de 600 000 euros. Donc là, c'était le chantier organisé par le CIARS. Et à partir du mois de janvier, c'est Grand Paris Sud qui va s'occuper d'une autre partie du cirque de l'Essonne. Donc vous voyez, les travaux sont vraiment importants, ce sont des travaux titanesques. L'image suivante, ça a été la remise des écharpes aux jeunes conseillers municipaux. Donc on n'a pas pu les inviter ce soir. Donc avec Isabelle Wirth, nous nous sommes rendus dans les classes pour remettre les écharpes aux jeunes conseillers municipaux. L'image suivante... Mais là, c'est pour vous inviter, comme nous avons malheureusement annulé le marché de Noël, et nous avons organisé des marchés gourmands, donc depuis plusieurs dimanches. Tous les dimanches de 10h à 13h, vous avez des animations, donc nous vous invitons dimanche 20 décembre pour le dernier marché gourmand. C'est bien ça, Marie, hein, je ne me trompe pas. Le dernier marché gourmand, donc avec différents stands et puis une animation musicale avec... Chris Agulot, donc, qui est un chanteur qui va endiabler la place Roland-Vincent avec ses musiques de rock. Et l'image suivante, c'est le Facebook Live. Donc là, j'ai entrepris, j'ai pu répondre aux questions de tous les Villabéens en direct pendant une heure lundi. Donc là, c'est toujours en ligne. Hein, vous pouvez aller voir les échanges et les questions surtout posées par les Villabéens. Vous verrez que ils sont souvent inquiets concernant les vitesses excessives, la circulation, les stationnements. Et donc voilà le nombre de questions qui m'ont été posées. L'image suivante. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Pascal. Hein, donc il y aura une distribution dès lundi de 11h30 à 13h30 avec l'association Linky. Donc merci à Valérie Pécresse et à la région Île-de-France qui nous a permis d'entrer en contact avec cette association et merci au CCAS et à tous les bénévoles. Oui, Isabelle, une information.
Oui, je voulais rajouter que ce matin, le Père Noël est passé dans chaque école maternelle et images. Que chaque enfant a eu un cadeau offert par la municipalité.
Donc voilà. Là, des images ont été mises sur le site Facebook de la mairie, donc vous aurez... des images avec la distribution des cadeaux offerts par la municipalité. Est-ce qu'il y a encore une information ? Oui, le budget participatif, on vient d'en parler lors des questions. Donc, il y a ce jour 276 réponses et vous pouvez continuer à répondre jusqu'au 31 janvier. Donc, et puis on mettra en œuvre, après on verra quel est le... Mais on voit que c'est encourageant parce que les Villabiens se sont mobilisés, puis surtout, ils se sont mobilisés pour nous faire des propositions intéressantes, surtout dans le cadre du développement durable. Ensuite, vous avez une image pour vous montrer que, ben, malgré la Covid, la ville de Villabé, Grand Paris Sud, nous nous réunissons. Et là, vous avez des images avec les enfants. Nous avons pu réunir le conseil des enfants en visioconférence. Donc là, ben, tous les jours, il y a à peu près 3 ou 4 réunions en visio. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas Zoom ou d'autres systèmes, mais là, ça devient maintenant ce sont des outils utilisés par toutes les administrations et même les entreprises. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui, mais on a aussi participé récemment à une visite avec le président du conseil départemental dans une... Alors là, vous avez, derrière moi, la plus grande bibliothèque d'Europe. Je crois qu'il y en a une identique en Allemagne. Alors, ce n'est pas une bibliothèque que l'on peut visiter, mais c'est un entrepôt qui est organisé par des personnes éloignées du travail, donc soit handicapées ou qui ont été en rupture, qui n'ont pas travaillé pendant des années. Et là, ils ont un emploi qui leur permet de trier, d'organiser, de ranger. Et à chaque fois que vous commandez un livre dans Recycle Livre, eh ben, ils partent de Villabé. C'est dans la zone logistique de Villabé, donc derrière, à proximité du carrefour de Villabé. Et le président du département s'est rendu dans cette entreprise pour la visiter. Est-ce qu'il y a une... Ah voilà, donc on vous donne rendez-vous aussi samedi. Tout le monde a eu l'information. Samedi 19 à 16h à la Villa, donc pour, si vous le souhaitez, l'objectif, parce que malheureusement nous avons annulé les vœux du maire qui devaient se dérouler au mois de janvier, mais là nous allons filmer donc les vœux du conseil municipal et nous les transmettrons au Villabéens, donc pour la nouvelle année 2021 et qui va effacer la triste année 2020. Donc le prochain conseil municipal se déroulera en mars. On n'a pas fixé la date exactement, mais elle aura lieu, je pense, à la mi-mars. Donc nous vous communiquerons la date du premier conseil municipal de l'année 2021. Il y a une date? Le 5 mars, alors. Donc c'est bien le 5 mars. Voilà. Et entre-temps, donc, nous vous réunirons en commission donc, pour que vous puissiez travailler sur les différents thèmes. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année dans vos familles. Soyez prudents, protégez-vous, continuez à porter des masques, gardez les distanciations. Et puis, nous nous retrouverons en 2021 pour de nouvelles aventures. Je salue tous les internautes qui regardent sur la chaîne YouTube de la mairie de Villabé cette dernière séance du conseil municipal. Je salue aussi tous les maires de la commune, de toutes les communes de Grand Paris Sud. Et je souhaite à tout le monde une excellente fête de fin d'année. Excellente soirée et bonsoir.